Matin. Il est 7h45 sur Europe 1. Dans la nuit de samedi à dimanche, nous fêterons les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune. Pour cet anniversaire, Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin le directeur général de la Cité de l'Espace, Jean-Baptiste Desbois.
En duplex de Toulouse, où se trouve ce lieu magique. Bonjour Jean-Baptiste Desbois.
Bonjour à vous.
Ce qu'il y a de singulier dans toute cette histoire de la conquête de l'espace, c'est que à la fois c'est magique, c'est fascinant, mais en 2019, 50 ans après les premiers pas de Neil Armstrong, c'est un fait accompli, ça fait partie de notre quotidien, j'ai l'impression.
Alors un petit peu, mais ça fait rapidement d'ailleurs partie du quotidien. C'est lorsqu'on regarde les missions, la première mission Apollo, donc Apollo 11 qui pose donc l'alunisseur sur la Lune en 1969, rapidement, les missions sont devenues presque ordinaires, on les suivait moins, paradoxalement. C'est un petit peu le propre de l'homme peut-être de banaliser.
D'être blasé, c'est terrible d'être blasé pour un événement pareil.
Pas, mais parce que le premier pas c'est extraordinaire, et puis ensuite, ben voilà, c'est comme le deuxième autour de France, on en parle moins, sauf quand c'est Poulidor que le premier.
Ouais. Cette mission Apollo 11, elle se déroule sur plusieurs jours, bien sûr, du décollage de la fusée jusqu'à l'arrivée des spationautes, des astronautes ou des cosmonautes, comme on veut, dans l'océan Pacifique et récupérés par l'US Navy. Vous, votre souvenir le plus marquant, l'instant le plus marquant pour vous de cette mission, c'est lequel ?
Je crois que c'est effectivement quand même bien le moment où la porte s'ouvre et qu'on commence à voir le paysage lunaire depuis par les caméras extérieures, et puis le premier pas, c'est-à-dire que il faut bien imaginer que quand Armstrong est descendu de l'échelle, il n'a pas mis tout de suite le pied sur la Lune, il l'a d'abord mis sur les coupelles qui supportent les pieds de la Lune par précaution. Ça lui permettait d'avoir un site d'observation. Tout ça a été totalement minuté, préparé en amont, répété par les équipages d'Apollo 11, et puis quelques minutes après, il met le pied sur la Lune. Et là, il pose sa première empreinte. Et cette empreinte, elle est quand même totalement magique, je trouve. Oui.
Ce que vous venez de dire est passionnant. Il y a eu des répétitions ?
Oui, tout à fait, absolument. Oui, alors il faut imaginer les répétitions à la fois pour Apollo 11, mais surtout en amont. D'abord, bien sûr, tous les programmes. D'abord, les Soviétiques qui envoient Sputnik, qui envoient Gagarine, etc. Les Américains qui essayent de suivre la course au départ. Puis Kennedy qui met un énorme coup d'accélérateur en 1961-62 avec deux discours marquants en disant on le fera, non pas parce que c'est facile, mais parce que justement c'est difficile, on va le faire, on va le réussir. Ils mobilisent toute une nation autour de ça. Et dans les mois qui précèdent la mission Apollo 11, il faut imaginer qu'il y a eu Apollo 8 en décembre 68, puis quasiment tous les 3 mois ensuite, Apollo 9, Apollo 10, Apollo 11, et chacune de ces missions, Apollo 8, on tourne autour pour la première fois autour de la Lune, on va autour de la Lune, on tourne autour.
Oui, Michael Collins, celui dont on parle le moins, parce que c'est lui qui reste dans le vaisseau.
Oui, tout à fait. Alors ensuite, Apollo 9, on fait, mais autour de la Terre cette fois, un test de décrochage du LEM, de rendez-vous donc en orbite. On teste le LEM qui se sépare de la capsule de commande et qui y retourne. On le fait autour de la Terre. Ensuite, Apollo 10, juste après, donc en printemps 69, on simule un alunissage. Donc John Young, qui d'ailleurs partira ensuite avec Apollo 16, marchera sur la Lune. Mais pour Apollo 10, se fait comme s'il allait marcher sur la Lune, mais s'arrête quelques kilomètres au-dessus de la surface lunaire. Et puis ensuite, Apollo 11. Et tout ça a été précédé d'énormément d'entraînements pour chacune des missions.
Je vous ai devancé en parlant de Michael Collins, qui est effectivement celui qui ne... Il va pas, lui, sur la Lune, mais il tourne autour, et c'est presque... en tout cas, c'est aussi intéressant que de marcher sur la Lune, parce que lui, il verra la face cachée de la Lune qui est très difficile à voir à cette époque-là.
Ah ben absolument, tout à fait. Exactement. Il en a, enfin, lui, il a très bien assumé, en l'occurrence.
Il a assumé, oui.
Les astronautes.
C'est ce que nous disait.
Les astronautes ont été choisis pour ça, oui. Exactement. C'est-à-dire que, vous avez raison de le signaler, lui, il était dans la face cachée. La face cachée, il y a deux dimensions. D'un côté, il découvre quelque chose qu'on ne voyait pas. Il y a quelques images qui commençaient à circuler, mais il les voit pour de vrai, cette face cachée qui criblait beau. Très différent de la face que nous voyons, nous, toujours depuis la Terre.
Oui.
Et puis, autre élément très fort pour lui, c'est que pendant qu'il est dans la face cachée, il est donc totalement coupé de communication avec la Terre.
Oui, il disait d'ailleurs, c'est Jean-Philippe Ballas nous le narrait tout à l'heure dans sa petite histoire du jour, et finalement ça l'arrangeait bien de temps en temps de ne pas parler à Houston qui lui disait « fais ci, ne fais pas ça, va donc ici ». Voilà, ça, il avait un petit peu la paix. Alors on l'oublie, mais au moment où les astronautes reviennent sur Terre, leur capsule est récupérée donc par les marins de l'US Navy, et à ce moment-là, c'est terrible, mais on ne sait absolument pas s'ils sont vivants ou pas.
Oui, tout à fait. On le suppose, on l'espère, mais effectivement, enfin, imaginez déjà que quand ils sont partis sur la Lune, ils ont dit bon, allez, on essaye de s'arracher de là quand même. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un vrai gros point d'interrogation. Ça pouvait marcher. Ils n'avaient aucun élément de secours. C'est-à-dire tout était en une seule unité, un moteur, etc. Alors il n'y avait pas de ce qu'on appelle de redondance dans le milieu spatial ou aéronautique d'ailleurs, hein, dans d'autres milieux. C'est-à-dire d'éléments de secours parce qu'il fallait aller vite. Kennedy avait dit on ira avant 70. Il y avait une énorme angoisse au niveau des Américains que les Soviétiques le fassent avant eux. D'ailleurs, il y a eu une sonde Luna 15 qui est partie 3 jours avant Apollo 11. Enfin voilà, on sentait bien qu'il y avait cette espèce de compétition, même si on sait aujourd'hui qu'en fait les Soviétiques étaient décrochés depuis un petit peu déjà par rapport à cela. Donc il y avait effectivement aucune redondance d'équipement. Comment s'était passée la rentrée dans l'atmosphère pour la capsule? Il y avait de grosses incertitudes, absolument. Oui.
Et d'ailleurs aujourd'hui, en parlant de concurrence dans la conquête spatiale, c'est la Chine qui arrive comme nouvel acteur de cette concurrence.
Absolument, et donc c'est aussi pour cela que l'on voit revenir aujourd'hui la Lune au premier plan, pour des raisons à la fois scientifiques, technologiques, base peut-être pour partir vers Mars, mais aussi, à nouveau, comme à l'époque des années 60, de la géopolitique. La Chine devient une puissance spatiale majeure. Elle a posé des éléments sur la Lune. Enfin, donc, en janvier dernier, elle a posé donc un rover sur la face cachée de la Lune, ce qui n'avait jamais été fait. Elle se prépare courant 2020, ça devait être fin 2019, c'est un petit peu repoussé maintenant, plutôt début 2020 ou mi-2020, à reposer un rover ou un robot sur la Lune, de façon à capter des roches et des poussières lunaires et les faire revenir sur Terre. Ça n'a donc jamais été fait depuis 1972.
Ce qu'il faut voir, c'est que...
Ce qu'il
faut voir, c'est que les trois Américains, quand ils vont en 69, donc poser le premier pied sur la Lune, ils rapportent, j'allais dire, ils font un petit peu de shopping, ils ont rapporté des échantillons de sol. Ça a évidemment été une avancée considérable.
Tout à fait. C'est d'ailleurs la toute première chose qu'ils font, dès qu'ils mettent le pied sur la Lune, quasiment, tout de suite, ils prennent des roches parce qu'ils craignent, ce qui peut toujours arriver, de devoir repartir d'urgence. Donc la première chose qu'ils font, c'est cela. Et puis ensuite, ils développent leur programme. Et là, ça a été prévu, anticipé, évidemment, rien n'est laissé au hasard. Vous parlez de Houston tout à l'heure, hein, tout est hyper minuté, ils ont systématiquement un planning à la minute près, quasiment. Et donc, ils le font au total sur l'ensemble de toutes les missions Apollo, de Apollo 11 à Apollo 17, donc en à peu près 3 ans, il y a un peu plus de 300 kilos de pierres lunaires qui ont été, ou de roches lunaires...
Qui ont été analysées, j'imagine, avec énormément de conséquences.
C'est ça. Exactement, donc elles sont stockées à Houston, en tant que telles, dans des abris. Et puis, un certain nombre sont déposées à des laboratoires pour faire des analyses, en fonction de projets, de programmes d'analyse. Donc ils sont déposés dans des labos dans le monde entier. Et puis... d'autres sont exposés au public et nous avons la chance, nous, à Toulouse, d'avoir une pierre de lune ramenée par Apollo 15 en août 71.
En deux mots, Jean-Baptiste Desbois, la Cité de l'Espace se met en quatre, j'imagine, pour cet événement ce week-end.
Oui, on se met en 4 ou en 15 000, je ne sais pas comment il faut dire, parce qu'on attend énormément de personnes, effectivement, à la Cité d'Espace. Nous organisons une grande fête de 14h à 23h, donc dimanche. C'est gratuit, totalement gratuit. Il suffit simplement de s'inscrire sur le site internet de la Cité d'Espace pour des questions d'organisation, hein, mais c'est entièrement gratuit et libre. Et on organise une grande fête. Alors, à la fois, toute la cité est ouverte. Il y a des animations. Nous avons un invité d'honneur, ce qu'on appelle un petit peu comme ça pour nous. Mm-hmm. C'est notre LEM. Hein, nous avons une réplique exacte, magnifique, là, du modèle... du module lunaire qui s'est donc posé, cette espèce d'araignée qui se pose, hein, avec Armstrong Aldrin sur la Lune, et autour de laquelle on aura beaucoup d'animations, d'explications. Un Airstream qui est la camionnette qui emmenait les astronautes sur les pas de tir. Une coupole d'astronomie, on va observer la Lune pendant la journée. Nous avons aussi des plateaux
d'invités. En tout cas, plein d'animations.
Par exemple, le patron, avons le patron du CNES qui va être là, par exemple, le patron de la NASA pour l'Europe qui va être là, des astronautes, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animations et une grande fête pour célébrer la Lune hier et les projets lunaires d'aujourd'hui.
Tout ce qu'il faut savoir sur la Lune, les tenants, les aboutissants. Merci beaucoup Jean-Baptiste Desbois d'avoir été avec nous en direct. Merci beaucoup à Benjamin Péter, notre correspondant pour ce duplex de Toulouse. Et puis je signale l'excellent ouvrage de nos camarades Jean-Philippe Ballas et Alain Sirou, Les Hommes de la Lune, c'est publié au Seuil.